Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour ce grand entretien de clôture de cette série d'émissions L'année vue par l'histoire. Pour ce grand entretien mené de concert avec Béatrice Bougnol du journal La Croix qui s'occupe des pages idées, nous avons invité un historien à cheval sur plusieurs continents. Il nous expliquera pourquoi il aime cette expression à cheval sur plusieurs mondes. Sanjay Subramaniam, professeur au Collège de France et à UCLA aux États-Unis. Vous êtes un historien de la première modernité. Plusieurs de vos livres, Vasco de Gama, Leçons indiennes, Comment être un étranger, ont été publiés en France chez Alma, et votre prochain livre à paraître, L'éléphant, le canon et le pinceau, quel joli titre, 1550-1750, histoire connectée des cours d'Europe et d'Asie, paraîtra lui aussi chez Alma le mois prochain. Vous êtes un historien de l'histoire qu'on appelle connectée, qui s'intéresse aux situations de rencontre ou de non-rencontre entre cultures à l'époque de ce qu'on a eu coutume d'appeler, à tort, vous nous expliquerez peut-être pourquoi, les grandes découvertes. Et quand nous vous avons invité pour ce grand entretien, vous m'avez dit que le présent, l'actualité, vous touchait là où vous viviez, avec par exemple aux États-Unis la campagne électorale de Donald Trump, là où vous aviez vécu, en Europe, en France en particulier, avec les débats sur le nationalisme qui remonte, sur l'état d'urgence par exemple en France, ou encore sur les migrants en Europe. Et là, vous étiez né en Inde avec la prise de pouvoir de nationalisme hindou et les menaces que peut-être cette prise de pouvoir faisait peser sur une certaine liberté de parole, en particulier universitaire, dans ce pays qui vous a vu naître. Vous qui avez une vision mondiale, on peut le dire, de l'histoire, Sanjay Subramaniam, la mondialisation serait-elle moins heureuse qu'on l'a cru jusqu'alors, justement, dans ce domaine, et avec cette remontée de certaines clôtures, certaines fermetures dans ces pays que vous connaissez bien, les États-Unis, la France et l'Inde?
En fait, la façon la plus simple de réfléchir sur cette question, ça serait peut-être de revenir sur un livre qui était célèbre pendant un certain temps, un peu oublié aujourd'hui, et je pense au livre de Francis Fukuyama.
La fin de l'histoire.
La fin de l'histoire, donc il a écrit, M. Fukuyama, étant entre philosophie politique et sciences politiques, c'était plutôt un spécialiste donc du contemporain, et ayant vécu la fin de la guerre froide, lui, en fait, voyait les choses, comme il a décrit dans ce livre, la fin de l'histoire, pas dans le sens, disons, négatif, mais néanmoins avec cette espèce de ton, moi je dirais presque millénariste, à la fin de l'histoire, parce que la guerre entre le bien et le mal, qui était la guerre froide pour lui, a terminé, le mal a perdu, et puis donc on n'a rien à attendre, sauf l'expansion du marché jusqu'à l'infini.
Et de la démocratie.
La démocratie. Donc, pour lui, c'était la même chose. C'est-à-dire, le marché libre et la démocratie, pour lui, c'était à peu près la même chose. Alors, il y a à peu près un quart de siècle qui est passé. Et voilà, on est dans un monde où rien de tout cela s'est passé. On n'a pas assisté ni à l'expansion à l'infini du marché, ni de la démocratie, ni de la fin de l'histoire, dans un sens quelconque. Par contre, ce qu'on a vu, c'était même pas la fin du nationalisme. Le nationalisme, au même moment, il y avait toute une série de livres qui ont été publiés des points de vue assez différents. Par exemple, il y a un livre qui a été publié par un très grand historien de gauche, Eric Hobsbawm, sur les nations et le nationalisme à l'époque, dans lequel il disait « Alors maintenant, on arrive à la fin du nationalisme ». Il parlait même du nationalisme presque comme quelque chose qui était du passé, du 19e et du 20e, mais qui n'avait pas d'avenir au 21e. Mais vous voyez qu'on est très très loin de ça. Est-ce que est-ce qu'il faut analyser ça comme un processus toujours malheureux? Je suis moins convaincu. Parce que j'ai toujours été de l'avis que le nationalisme en tant que tel n'était pas une mauvaise chose. Et alors là, je suis plus de l'avis, par exemple, de l'autre grand analyste du nationalisme qui est décédé il y a peu de temps, qui était Benedict Anderson, anglo-irlandais, qui, dans son livre « Les communautés imaginaires », en fait, avait présenté une vision du nationalisme qui était beaucoup plus mitigée, où il disait qu'il y avait une espèce de nationalisme modéré, qui avait une raison d'être, qui pouvait être justifiée même, et que toutes sortes de nationalisme n'étaient pas voués à l'échec, ni à l'extrémisme. Le nationalisme extrême, ça c'est autre chose.
Béatrice Bougnol.
Toutefois, l'histoire connectée dont vous avez forgé la méthode dépasse les frontières des histoires nationales. Et cette histoire qui se mondialise, ne craignez-vous pas qu'elle, en retour, qu'elle attise, qu'elle amplifie les replis identitaires ?
En fait, l'histoire connectée, c'est une espèce de, à mon avis, c'est toujours, son destin, ça serait d'être une histoire minoritaire. Je n'ai pas envie que ça devienne un courant majoritaire. Donc, à mon avis, il faut toujours avoir des histoires non connectées aussi. Et comme j'ai dit d'ailleurs dans ma leçon inaugurale, je pense qu'il faut trouver un moyen de faire survivre et trouver une espèce de concurrence saine et pas malsaine entre ces différentes sortes d'histoires.
Parce que, en fait, quand on vous lit, vous êtes surprenant. Et je pense que vous aimez surprendre au bout du compte. C'est-à-dire prendre à contre-pied votre lecteur. Vous n'aimez pas l'esprit de système. Or, on est en train, d'une certaine façon, de vous couronner, pas simplement parce que nous sommes ici à la Sorbonne, mais en général, une chaire au Collège de France, une chaire à UCLA et de nombreuses places de professeurs invités un peu partout dans le monde, de vous dire parmi ceux qui ont justement inventé cette histoire connectée. Et au moment même où, d'une certaine façon, cette histoire connectée qui veut raconter, comme je le disais tout à l'heure, la rencontre et la non-rencontre, les passeurs, ceux qui sont entre deux mondes ou qui sont à cheval sur deux mondes, a un certain succès internationalement, vous êtes en train de nous dire à l'instant même, je ne voudrais pas que ça devienne un système, je ne voudrais pas que ça devienne majoritaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Sanjay Subramaniam?
C'est vrai que j'ai vu ça dans ma vie, mais parce que je suis aussi lecteur d'autres moments dans l'historiographie, j'ai vu qu'on peut avoir, par exemple, si vous prenez quelque chose comme l'École des Annales, l'École des Annales a très bien fonctionné quand c'était créé comme quelque chose qui allait contre une espèce de système universitaire. Mais dès que c'est devenu un système en tant que tel, je pense que ça a eu une espèce de sclérose. Et le résultat, c'est que finalement, même des gens de l'intérieur de l'École des Annales ont dit « bon, il faut dépasser ça ». Et ça, c'était plus ou moins le débat des années 80-90. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose... Et vous voyez, vous connaissez dans l'histoire de Jules César, c'est cette histoire de refuser la couronne maintes fois, même si on a envie. Hein. Donc, non, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être hypocrite. C'est plutôt pour dire que à chaque fois qu'on on va vers cette espèce de hyper-systématisation, il faut savoir qu'il y a des grands risques. Et moi, je pense qu'il faut surtout hésiter avant de rentrer dans ce genre de jeu.
Et quels sont les risques, selon vous, de cette histoire connectée devenant majoritaire, en l'occurrence? Parce que tout compte fait, elle est à peine découverte, peut-être dans cette salle, beaucoup de gens ne la connaissent-ils pas, cette histoire connectée, elle est portée par quelques-uns dans chacun de ces pays, donc elle n'est pas encore majoritaire, mais c'est vrai qu'elle a un certain succès. Quel est le risque de devenir majoritaire maintenant?
Bon, je vous donne deux exemples, simplement. Premièrement, par exemple, prenez le cas de la globalisation. Alors ça, c'est devenu un mot complètement bidon. On dit de globalisation pour dire tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est un exemple d'un mot qui a eu un grand succès dans les sciences sociales et même dans l'histoire, mais au fur et à mesure, on l'utilisait en perdant le sens. Donc on parle maintenant, oui, il y avait la globalisation à l'époque de l'Empire romain, il y avait la globalisation des croisades, il y avait ceci et cela. Donc, vous voyez que avec cette espèce de utilisation sans contrôle, on perd tout sens de rigueur épistémologique.
Et la rigueur, c'est important.
Oui, tout à fait. Donc, ça, c'était un aspect. Le deuxième aspect, c'est quand même que je trouve qu'il y a aussi une question de méthode. C'est-à-dire, pour faire de l'histoire connectée, à mon avis, il faut essayer de maîtriser plusieurs champs et plusieurs archives. Et c'est pas évident de faire ça. Et donc, il ne suffit pas de dire, moi, du jour au lendemain, je faisais les études sur, je ne sais pas quoi, les Malouins au XVIe siècle, et maintenant, je fais de l'histoire connectée. tout en restant dans les archives malouines ou françaises, et donc sans se rendre compte qu'en fait il y a un travail assez important, assez énorme à faire pour passer de l'histoire, disons, nationale ou régionale à l'histoire connectée. Donc je me méfie de cette idée d'une espèce de transformation comme si sans le moindre
baguette,
effort...
Le coup de baguette magique.
Voilà, et on commence à faire ça. Et je peux également comprendre que c'est pas tout le monde qui a envie de faire ça. Mon maître à moi, parmi les plusieurs maîtres que j'ai eus, il y avait quelqu'un qui était à l'école pratique des hautes études, à la 4e section, qui était un grand monsieur qui s'appelait Jean Aubin.
Qui vous a demandé de venir à Paris, d'ailleurs.
Entre autres, oui, voilà. Mais je vous dis en deux mots sa formation. Aubin a été formé en tant que persianisant. Donc, il a travaillé sur le persan, le turc et l'arabe. Ça, c'était le point de départ. Puis, il s'est intéressé à l'histoire du Portugal. Donc, il a étudié le Portugal, mais aussi l'histoire espagnole, l'histoire italienne. Puis il a commencé à faire des choses à partir de ça, il est rentré dans l'histoire suédoise, l'histoire serbo-croate, je ne sais pas trop quoi, mais à chaque fois en multipliant la connaissance des langues, la connaissance des... Mais à la façon de la 4e section, d'une façon tout à fait sérieuse et philologique. Alors, il faut savoir faire ça.
Béatrice Bougnol.
Oui, c'est ce qui fait de l'histoire connectée, ce que vous dites à maintes reprises, plus une exigence de méthode qu'un véritable objet d'étude.
Voilà.
Ça pose la question aussi de son enseignement, en fait. Comment l'enseigne-t-on, cette exigence de méthode, à l'université, certes, mais aussi dans les lycées, dans les manuels scolaires? Vous disiez à l'instant d'avant qu'il ne s'agissait pas d'en faire une histoire majoritaire, qu'elle devait cohabiter avec les histoires nationales et d'autres approches. Comment ça vous paraît possible de la transmettre au-delà d'un cercle de spécialistes, dans les manuels scolaires par exemple, aujourd'hui ?
J'ai jamais participé à ce niveau-là dans l'enseignement en France, mais j'ai quand même eu une certaine participation en Inde. Et en Inde, comme l'Inde est un pays beaucoup plus jeune d'un certain point de vue, dans le sens d'État-nation en tout cas, que la France, l'histoire c'est beaucoup plus sensible encore de certaines façons.
Et pourtant c'est sensible chez nous aussi.
Oui, oui, non, bien sûr, c'est sensible partout, mais en Inde il y a des sensibilités assez particulières liées au fait de la partition. Alors ça c'était quand même quelque chose d'assez important. Quand on a scié une région en deux, selon les critères religieux, ça donne un effet, ça crée un effet qui dure très très longtemps, parce que c'était quand même un processus assez violent qui a fait quelques millions de morts. Donc, comment expliquer, par exemple, aux jeunes en Inde, je veux dire, qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, ce qui est d'être... pourquoi être indien et être hindou, ce n'est pas la même chose? Ou pourquoi il n'y a pas une langue nationale en Inde? Pourquoi, en fait, souvent, on peut se trouver dans une région de l'Inde où il semble que celui qui habite dans le pays à côté a plus à voir avec vous que celui qui habite dans votre pays. Par exemple, si vous êtes à Calcutta, vous avez plus en commun avec quelqu'un qui est au Bangladesh que vous avez avec quelqu'un qui habite l'Inde du Sud. Et ça, c'est l'expérience quotidienne des gens qui habitent Calcutta, parce qu'il y a énormément de Bangladais dans la ville de Calcutta, même aujourd'hui. Donc, il faut tâcher d'expliquer ce genre de choses pour dire que les frontières nationales ne sont pas des frontières sacrées. Elles ne sont pas du tout... Elles sont des choses qui ont été créées par des hommes et pour des hommes, pour des raisons particulières, dans des situations particulières. Et donc, vous voyez que ça, c'est quelque chose... C'est un autre type d'enseignement qui n'a pas grand-chose à voir avec les questions de méthode. Les questions de méthode viennent finalement quand on arrive à un niveau beaucoup plus avancé, quand on est en train de pratiquer l'histoire en tant que profession plutôt que consommer l'histoire en tant qu'étudiant, disons, de l'école primaire ou même secondaire.
Si on développe ce qu'est l'histoire connectée selon vous, Sanjay Subramaniam, et si on prend vos objets d'étude, les Portugais et l'Inde, Vasco de Gama sur lequel vous avez travaillé, provoquant parfois des remous assez sensibles dans le Portugal, qui le considère comme un de ses plus grands héros, et qui vous accueille avec une certaine froideur pour le portrait que vous en faites. Vous dites que vous vous intéressez, en particulier maintenant, dans l'avancée de vos travaux, à ces personnes qui sont à cheval. Je vous présentais comme quelqu'un qui était à cheval. Qu'est-ce que ça veut dire de s'intéresser à ces personnages et ces moments où il y a des gens qui sont à cheval, alors à cheval entre deux cultures, à cheval entre deux pays? Qui sont-ils et pourquoi sont-ils si intéressants quand on fait de l'histoire, Sanjay Subramaniam?
Bon, je vous explique un peu ce livre, au risque de mettre les pieds, mes pieds dans le plat, comme j'ai un peu l'habitude de faire.
On a compris.
Oui. En fait, en 2006, on m'a invité à Jérusalem pour faire une série de conférences. C'était une série de conférences qui s'appelle les conférences Menachem Stern, qui porte le nom d'un grand historien israélien de l'Antiquité. Et donc, j'ai regardé, il y a un certain nombre de grands historiens qui sont passés avant moi, mais en réfléchissant, je me suis dit, alors ça serait intéressant quand même de utiliser en tant que thème cette idée des identités floues, des gens qui n'appartenaient pas forcément à une seule culture, qui se trouvaient sans cesse entre les cultures. Alors vous voyez, c'est un certain intérêt de dire ce genre de choses à Jérusalem.
Oui. Et dans beaucoup d'endroits du monde, c'est aussi.
Mais en fait, là où je me trouvais pour faire ces trois conférences, donc j'ai choisi trois cas, et j'aurais pu choisir 35, mais j'ai choisi trois cas, des cas assez différents, mais qui appartenaient tous les trois au 16e, 18e, pour démontrer que, tout d'abord, il y avait un cas qui était un peu, disons, un peu tragique, parce qu'il s'agissait de quelqu'un qui avait été plus ou moins kidnappé, et donc par la suite n'a jamais pu rentrer chez lui en quelque sorte, et qui a donc passé une fin de vie assez larmoyante. Par contre, le deuxième cas que j'ai choisi, et même le troisième, les deux étaient, un était plus ou moins escroc.
Oui, parce que l'entre-deux ou le à cheval favorise aussi parfois l'escroquerie.
Oui, voilà.
Pas simplement des entreprises de savoir et de connaissances mutuelles.
Tout à fait. Donc il y avait un qui était une espèce de faux médecin, qui faisait semblant en Inde d'être médecin, quand en fait il avait jamais eu de formation de médecin. Et d'ailleurs, François Bernier, qui l'a connu, avait une piètre opinion de lui à cause de ça. Bernier a été formé à Montpellier, donc il savait de quoi il parlait.
Grande école de médecine,
oui, voilà,
de l'époque moderne.
Et le troisième était quelqu'un qui, lui, en fait, à cause de sa position de quelqu'un qui est à cheval entre les cultures, a pensé qu'il avait le droit de faire une espèce de théorie mondiale. Donc,
la vision de Dieu, d'une certaine façon.
Voilà, c'est une espèce de vision globale de l'époque. Il a écrit un texte. Vous imaginez, c'est un Anglais qui a écrit un texte en castillan qui s'appelait modestement Peso Politico de Todo el Mundo.
Le poids politique du monde entier.
Du monde entier. Hein, où il passe en revue tous les pouvoirs du monde au XVIIe siècle. Il explique comment le monde fonctionne, la máquina del mundo, comment ça fonctionne comme une espèce de machine. Et comment, en fait, il faut appuyer ici, si on a envie des résultats là-bas, s'il faut influencer les Chinois, il faut passer par les Russes, s'il faut influencer les Russes, il faut passer par les Ottomans, et ainsi de suite.
Il a inventé la théorie de l'aile du papillon qui provoque une tempête à l'autre bout du monde.
Oui, voilà. Donc, j'ai aussi voulu faire ça d'une façon qui n'était pas seulement en jouant sur cet aspect, comment exilé, triste, larmoyant, etc., etc. On a beaucoup fait ça aussi, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir sur la façon dont les gens ont vécu cette entre-deux, cette vie à cheval, d'une façon assez différente, selon les circonstances, selon leur personnalité et selon leur projet, en quelque sorte.
Béatrice Bignol.
C'est aussi une singularité de votre travail de vouloir vous attacher à des parcours individuels, contre justement une vision de l'histoire qu'on a pu appeler globale, mais une globalisation dont vous nous disiez tout à l'heure qu'elle est devenue un mot un peu fourre-tout. Cet attachement au parcours individuel, comme dans l'ouvrage que vous venez de décrire, c'est l'héritage aussi de la micro-histoire telle qu'on la connaît en Europe?
Oui, bien sûr. C'est parce que, pour vous dire les choses simplement, en fait, j'ai une formation, je n'ai pas de formation d'historien, j'ai une formation d'économiste. J'étais formé en économie. Et donc, par la suite, j'ai fait une thèse de doctorat en histoire économique, qui était beaucoup plus de type, lié avec l'histoire de l'économie politique et des choses comme ça, et assez quantitative aussi sur un certain plan. Mais puis, avec le temps, j'ai changé de point de vue, et ce livre-là, dont je viens de parler, c'est le résultat de 5 ou 6 ans de conversations assez intenses avec Carlo Ginzburg.
Oui. Qui est un des pères de la micro-histoire.
Mais qui a aussi été mon collègue à UCLA pendant 5 ou 6 ans. Donc on a eu beaucoup de conversations et je pense qu'on peut voir en quelque part l'effet de ces conversations.
Mais comment justement allier ce qu'on imagine, même si on se trompe parfois, cette micro-histoire qui s'intéresse à des cas spécifiques dont on veut faire ensuite, comme l'a fait Carl Ginzburg, ou comme Lévy, Giovanni Lévy avec lui, en Italie dans les années 70, dont on veut faire des cas de l'exceptionnel ordinaire, pourrait-on dire. C'est-à-dire que on prend un cas et on se dit qu'on fait, il dit quelque chose sur l'ensemble de l'époque. Comment allier cette échelle, qui est une échelle microscopique, comme son nom l'indique, de micro-histoire, avec cette échelle connectée, qui, elle, effectivement, est une échelle qui, théoriquement, se passe à la surface du monde, entre des civilisations ou des cultures qui sont très éloignées les unes des autres. Comment faire le joint entre les deux, Sanjay Subramaniam?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire, et j'ai mes différences aussi avec Ginzburg par rapport à ça, parce que Ginzburg, dans le livre qu'il a publié à la fin des années 80, c'est basé sur l'idée qu'on peut partir d'un cas très spécifique en utilisant la méthode de la comparaison. Donc, il parle de la comparaison morphologique, par exemple, et comme Ginzburg avait été très influencé à un certain moment par le structuralisme et par Lévi-Strauss, donc il aimait ce genre de comparaison. Moi, je ne suis pas très, très porté vers ce genre de choses, et donc c'est pour cela que j'ai choisi des cas où, dans les matériaux même, dans les archives même, il y a cet aspect, disons, qui n'est pas local. Mm-hmm. Vous voyez que le cas de personnage qui a écrit un texte qui s'appelle Peso Politico de todo el mundo, je n'ai pas besoin d'inventer pour lui cette espèce d'identité à l'échelle globale.
Il l'assume.
Oui, lui-même. Hein, donc, et l'autre, le Vénitien, le médecin, qui a fait un parcours entre Venise, l'Empire ottoman, l'Empire safavide, l'Inde, etc. Donc, vous voyez encore que c'est quelqu'un qui a traversé un certain nombre de mondes. Et donc, je pense qu'il est possible de revenir sur ce genre de choses. Et je pense que maintenant, parmi les pratiquants, pas tous de la micro-histoire, il y a un certain nombre qui sont d'accord avec moi qu'on peut choisir des exemples qui ne sont pas des gens qui sont totalement insérés, qui ont passé toute leur vie à Turin, ont pensé que à des choses turinoises, hein, mais à quelque chose qui a une espèce d'autre échelle géographique et d'autres horizons. Et donc, voilà comment on fait. Hein.
Béatrice Bougnol.
Un des parcours individuels que vous avez étudié, comme Emmanuel le rappelait, c'est celui de Vasco de Gama. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans cet ouvrage, mais dans d'autres ouvrages, vous y faites référence, c'est l'ironie, la présence de l'ironie, notamment dans la série Quiproquo que vous décrivez dans l'histoire de Vasco de Gama, qui finalement croit découvrir une terre alors qu'il arrive dans un carrefour commercial déjà très actif, qui croit découvrir une église avec des chrétiens perdus alors qu'il visite un temple, oui. Et bon, ainsi de suite. Il y a beaucoup de quiproquos, y compris dans l'historiographie portugaise. J'avais envie de vous demander si l'humour, l'ironie, le rire, c'est important dans le travail d'un historien, c'est important dans l'écriture de l'histoire.
Pour moi, en tout cas, oui. Mais faut-il imposer l'humour? Non. C'est comme on disait, il y a cette espèce de remarque qui se faisait entre les Anglais et les Américains, c'est-à-dire les Anglais disaient toujours, les Anglais ont de l'humour et les Américains ont des blagues. Hein? et donc on peut enseigner les blagues, mais on ne peut pas enseigner de l'humour, vous voyez. Voilà le problème. Donc, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'il faut que ça soit la façon d'écrire l'histoire de tout le monde. Mais je pense que c'est très utile, surtout pour prendre ses distances, justement...
Désacraliser aussi, peut-être.
Oui, par rapport à cette espèce de nationalisme, méthodologique, l'humour, c'est très utile pour ça. Hein. Et d'ailleurs, je peux vous donner plein d'exemples de...
Allez-y.
parce que souvent, c'est pas des choses qu'on peut mettre dans les livres. Hein. C'est les choses que ça raconte plus facile oralement. Hein. Il y a même des blagues portant sur Gandhi en Inde, hein, donc qui sont assez, pour utiliser l'expression indienne, qui ne sont pas du tout végétariennes. Hein, voilà.
Béatrice Bougnol.
Non, simplement peut-être pour citer quand même ce que vous décrivez comme une maxime personnelle. Que vous donnez à la fin de Vasco de Gama.
Mais en jouant avec Spinoza, oui.
En jouant avec Spinoza.
Oui.
Voulez-vous la dire vous-même, peut-être ?
Non, allez-y.
Alors, rire des actions qui sont ridicules, déplorer celles qui sont tragiques, maudire celles dont ont souffert les victimes.
Oui. Donc, vous voyez que c'est quelque chose, au moins, qui marche pour moi. J'ai dit ça un peu aussi comme une espèce de boutade par rapport à quelqu'un qui est un très grand ami à moi, un historien portugais, mais un historien portugais qui, lui, croit qu'il ne faut pas mélanger... Il a beaucoup d'humour dans sa vie privée, mais il ne croit pas qu'il faut mélanger ça avec l'écriture de l'histoire. Donc, je disais ça un peu comme une espèce de clin d'œil.
Et c'est un clin d'œil aussi qui dit qu'on peut avoir plusieurs registres de langue. Comme vous travaillez beaucoup sur les traducteurs, sur les traductions... que vous vous intéressez aux erreurs de traduction, aux distances entre le texte originel et le texte de celui qui est traduit pour l'adversaire, celui qui est en face, etc. C'est aussi une façon de travailler sur la langue. Et c'est extrêmement important pour vous de travailler sur la langue, de travailler avec la langue de celui qui est en face de vous quand vous êtes dans les archives, que ce soit le portugais, le malais, l'anglais, l'allemand, l'italien, enfin toutes les langues que vous parlez, Sanchez Romagnol, c'est important parce que on entre dans une finesse et dans une compréhension, par exemple, de ces légères distorsions entre deux documents. Quand un document est produit dans une langue, et que, par exemple un traité de paix, et qu'il ne dit pas la même chose dans la langue de celui avec lequel on fait la paix, par exemple.
Oui, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est une espèce de donnée des bases pour tout historien qui est aussi philologue, et les gens qui travaillent sur l'époque moderne, ou l'époque médiévale, ou l'époque ancienne, sont normalement quelque part ils ont quand même un investissement dans la philologie. C'est peut-être un peu moins le cas pour les gens travaillant sur l'histoire contemporaine, même s'il y a là aussi des exceptions. Mais pour nous, travaillant sur cette époque un peu plus ancienne, la langue et le jeu entre les langues, mais ça peut aussi faire, par exemple, même en travaillant sur une langue, les registres de langue. Vous prenez le cas de Ginsburg. Alors là, en prenant, si vous êtes vous êtes quelqu'un qui est d'origine paysanne, le type de langage que vous manipulez et ce qui est utilisé par l'inquisiteur, c'est pas du tout la même chose. Et il y a aussi là les passages à l'intérieur même d'une seule langue. Et donc tout cela, c'est aussi cette espèce de...
C'est ce jeu
qui se fait, oui. Et je pense que c'est quand même une partie, je ne dirais pas que c'est la seule chose, mais c'est quand même une partie. Et d'ailleurs, dans le livre sur l'éléphant, le canon et le pinceau...
Qui va paraître le mois prochain.
Oui, j'essaie aussi de faire un peu ça sur le visuel.
Parce que vous travaillez aussi sur ce visuel, sur ce que représente parfois une image pour un type de culture et ce qu'elle dit dans une autre culture avec laquelle elle est en rapport. Et il y a là, effectivement, des malentendus. Alors là, en l'occurrence, ce serait plutôt des mauvaises visions et non pas des malentendus. Mais on ne voit pas la même chose à partir d'un même document, d'une même image, comme d'ailleurs dans les traités, comme vous le disiez, on le disait tout à l'heure, on n'entend pas la même chose dans une langue ou dans une autre. Et c'est dans cet écart, c'est l'écart qui compte, que se niche peut-être parfois, dites-vous, même des guerres à venir, parce qu'on ne dit, on ne voit pas, on ne dit pas la même chose.
Oui, non, mais en fait, j'ai aussi, dans ces cas précis, envie d'aller au-delà de cette idée de mauvaise compréhension. Oui. Hein. Je pense qu'il y a aussi parfois une espèce de jeu délibéré.
Et créatif.
Par exemple, si vous êtes musulman, artiste, travaillant à la cour de l'empereur moghol au début du XVIIe siècle et vous avez décidé de peindre une scène où on montre la crucifixion de Jésus, alors ça ne veut pas forcément dire la même chose que celui qui a fait la peinture entre guillemets originale sur laquelle vous vous basez.
Bien sûr.
Déjà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre la première version et la deuxième version, vous voyez. Et c'est pas que de l'ordre du malentendu. Mmh.
Béatrice Bougnol.
Dans le même ordre d'idées, vous écrivez, je crois, que les livres doivent beaucoup au lieu où ils ont été écrits. Est-ce que c'est le regard que vous portez sur votre propre œuvre et les livres que vous avez pu écrire en Inde, au Portugal, aux États-Unis, en France, ont-ils été modelés par ces lieux d'écriture ?
Pas tant que ça. J'ai pas le mauvais goût de prétendre d'être Nabokov, qui a écrit donc dans un premier moment en russe, en Russie, puis à Berlin, puis à Paris et en Angleterre, puis aux États-Unis. À chaque fois, il changeait de registre, de langue et de type de roman. Et moi, j'ai toujours écrit dans la même langue. J'ai toujours écrit plus ou moins en utilisant le même genre. Donc, il y a quelques variations. Oui, peut-être un peu dû à des lieux, mais pour moi, en fait, en tout cas, les lieux sont des lieux de sociabilité. C'est-à-dire, par exemple, quand j'étais à Paris, j'ai écrit un certain nombre de livres, et si vous regardez ces livres, vous voyez que le fait que j'ai tenu un séminaire avec un certain nombre de mes collègues...
Bien sûr.
Serge Grouzinski ou Kapil Raj ici présent. Donc, vous voyez, là, du coup, je parle beaucoup plus, par exemple, des empires ibériques ou le rapport ou la comparaison entre le Mexique qui a été conquis et l'Inde qui n'a pas été conquise au même moment, etc. Donc, et là, tout cela, c'est le résultat du fait que j'ai fait
cette discussion
avec.
Des discussions voilà, que vous aviez ici.
Hein, donc, c'est pas Paris en tant que tel qui est rentré dans mon livre, mais c'est plutôt ces milieux et ces lieux de sociabilité et ces milieux intellectuels, je pense, en quelque sorte. Et c'est la même chose sur la microhistoria qui s'est glissée par la présence de Ginsburg.
Vous, dans votre futur livre qui sort dans un mois chez Alma, L'éléphant, le canon et le passeau, histoire connectée des cours d'Europe et d'Asie entre 1500 et 1750, vous parlez de ce terme que vous utilisez dans d'autres ouvrages, d'incommensurabilité,
oui.
Et de commensurabilité pour pouvoir justifier ou faire comprendre ce qu'est le travail d'un historien qui travaille en histoire connectée. C'est-à-dire travailler sur cette notion de ce qui peut se comprendre entre deux personnes, entre deux cultures à un moment donné, et de ce qui ne peut pas se comprendre parce que ça n'est pas commensurable. Est-ce que vous pouvez développer sur cette idée qui m'apparaît extrêmement féconde et très originale, très intéressante, justement, de ces deux termes qui disent quelque chose de ce qu'est ou ce que pourrait être cette histoire connectée, Sanjaya Subramanian?
Oui. Alors là, vous voyez, justement, ça, c'est le résultat, justement, de ces conversations qu'on a eues dans les séminaires à Paris avec les historiens de sciences. Parce que cette idée d'incommensurabilité, je l'ai pris effectivement des historiens de sciences parce que c'est un concept clé chez quelqu'un qui est plutôt philosophe des sciences, qui est Thomas Kuhn, dans la structure scientifique, etc. En fait, ça a été beaucoup contesté. Je vous donne un exemple très simple, hein, d'ailleurs, je pense, assez connu. Vous vous rappelez qu'il y a ce livre qui a été publié, je pense, à la fin des années 70, qui était le grand livre de Tsvetan Todorov, La conquête de l'Amérique. Dans ce livre, Todorov présente la conquête de l'Amérique comme une espèce de conquête sémiotique parce que les Espagnols arrivent, Et il y a face à eux les Mexicas ou les Aztèques, comme vous voulez. Alors, et entre les deux, il y a une espèce d'incommensurabilité.
Ils ne se comprennent pas.
Ils ne se comprennent pas parce que les systèmes de signes, les systèmes sémiotiques qu'ils utilisent, les deux ne sont pas pour lui commensurables. Et donc, pour lui, la conquête se fait à cause de ça. Alors, ça, c'est basé sur une idée des cultures qui, pour moi, est trop rigide et trop structurelle.
Parce que, justement, il y a des gens qui sont à cheval à un moment ou à un autre.
Justement. Et donc, par exemple, si vous vous demandez comment est-ce que ça se fait que les Espagnols, déjà en 1520 ou 1521, sont en train de faire des transactions dans les marchés de Mexique, dans la ville de Mexico ou dans la Yucatan, etc. Dans le quotidien, ils arrivent à communiquer. Alors, comment est-ce que ça se fait? Ça se fait, évidemment, ça s'improvise.
C'est du bricolage.
C'est une espèce de bricolage. Donc, le bricolage a fonctionné pour Lévi-Strauss, en quelque sorte, aussi pour dépasser un peu cette notion un peu trop rigide de structure. Alors, c'est justement pour cela. Mais pour moi, imaginez qu'il y a une espèce d'incommensurabilité entre les cultures qui est là et qui va rester là pour toujours, c'est assez peu probable. Historiquement, ça ne s'est jamais produit dans les cas que je connais. Il se peut que produire l'incommensurabilité va prendre un peu de temps, peut-être un peu plus de temps dans certains cas, un peu moins de temps dans d'autres cas. Mais moi, j'insiste beaucoup plus sur la production de la commensurabilité, sur les agents de la commensurabilité.
Le rapprochement, les possibilités de se comprendre, finalement. Oui. Vous dites qu'un écrivain portugais arrivant en Inde, oui, dans les années 1550, étant en 1550, a compris des choses de l'Inde qu'un écrivain portugais 50 ans plus tôt, au tout début, n'avait pas compris. Donc il y a effectivement tout un travail sur la durée, et qui peut être d'ailleurs des durées relativement courtes, où les êtres humains s'adaptent les uns aux autres, se comprennent les uns aux autres, c'est cela?
Oui, voilà. Et donc, pour revenir par exemple au cas de Vasco da Gama que vous avez cité, alors bien sûr, il arrive en 1498, les Portugais sont convaincus, au moment quand il revient au Portugal en 1499, que l'Asie, c'est en fait c'est une terre des chrétiens. Il y a des chrétiens partout, selon eux. Donc, apparemment, il y a des chrétiens au Cambodge, il y a des chrétiens en Asie du Sud-Est, il y a des chrétiens au Bengale, etc. Et donc, très très vite, cette vision va être totalement transformée. Et on arrive déjà en 1520 ou 1518, quand on lit le texte de Tomé Pires, on est déjà dans un autre monde. Donc, il y a cette espèce de production et cette espèce de changement. Donc, mais pour moi, il ne suffit pas de dire que les structures se sont adaptées. Il faut aussi prêter attention aux agents.
Oui, hein? Ce ne sont pas les structures, ce sont les personnes qui ont fait les structures en question. Voilà. Béatrice Bougnol.
Oui, justement, c'était ce terme-là sur lequel je voulais relancer, sur le terme d'agent. Oui. C'est-à-dire qu'il y a derrière cette idée-là une confiance, j'allais dire, ou en tout cas un regard particulier sur le rôle de l'homme dans l'histoire, en fait.
Voilà. On m'a parfois reproché qu'il y a peut-être un peu trop d'hommes et pas assez de femmes dans mes histoires. Il se peut que ça soit vrai pour... Mais c'est aussi un problème un peu particulier, disons, de cette époque-là. Il y a des moments, disons, dans l'histoire contemporaine, c'est beaucoup plus facile, les archives sont comment plus adaptées pour faire l'histoire plus équilibrée entre les genres. Oui.
Ce qui est intéressant dans votre travail, Sanjay Subramaniam, c'est que vous dépassez par cette histoire connectée une autre histoire qu'on a produite plus tôt, qui était une histoire de la domination et des dominés et de ceux qui dominaient, qui était une histoire qui était typique aussi de l'après-décolonisation, de la volonté d'une certaine façon de reprendre sa propre histoire pour des pays qui avaient été colonisés par l'Europe, par exemple. Vous le dépassez en vous posant justement cette question de cette relation ou de cette non-relation, de comment les gens se voient, comment ils se perçoivent. Est-ce qu'ils se voient même quand ils se rencontrent? Parce qu'au Gama arrivant en Inde ou dans d'autres endroits du monde, des personnes arrivant de l'Europe et ceux qui sont censés les recevoir ou les apercevoir ne les voient pas. Donc ça n'est plus une histoire de la domination, c'est une histoire de la rencontre, de la non-rencontre, de la rencontre possible, de ceux qui la rendent possible, et donc effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, des agents qui rendent cette rencontre possible, Sanchez Subramania.
Oui, non, je suis tout à fait à la fois dans la ligne de développement de quelqu'un comme Nathan Wachtel, avec qui j'ai aussi enseigné à certains moments, quand il a écrit La vision des vaincus.
La vision des vaincus, c'était un livre sur la vision
du Pérou,
de l'arrivée des conquistadors espagnols.
Voilà. Et lui, il avait fait ça d'une certaine façon dans les années 60. Je pense que c'est un livre qui reste important. Mais en même temps, je voulais faire un peu autre chose, ou même, je dirais, si j'ose dire, un peu plus que ça.
Au-delà.
Oui, voilà. J'accepte un certain nombre de ces présupposés, mais j'ai aussi envie de faire autre chose pour pas seulement donc parler en termes de vainqueurs et de vaincus. Je pense que c'est, il faut avoir plus de catégories que ça, et c'est plus compliqué en fin de compte que cette histoire binaire.
Béatrice Bougnol.
Oui. D'ailleurs, ni en termes aussi de victimes et de bourreaux, pour reprendre une autre dichotomie, puisque vous dites effectivement qu'il ne s'agit pas non plus de considérer que les Indiens n'ont été que victimes de l'expansion européenne, qui n'ont été que victimes des déprédations, etc. Donc c'est au-delà de ce rapport entre vainqueurs et vaincus, comme vous le disiez, ou entre victimes et bourreaux.
Oui, il faut dire que c'est un sujet assez sensible. Je pense que pour l'Inde, on peut le dire plus facilement. Si on le dit, par exemple, pour les Indiens d'Amérique, ça risque de provoquer des réactions beaucoup plus fortes. Je vous rappelle, par exemple, que quand deux de mes amis, deux historiens, Frank Solomon et Stuart Schwartz, ont publié un ouvrage collectif portant sur les Native Peoples of America, dans lequel ils ont aussi parlé de la survie, des changements, de métissage, etc. Claude Lévi-Strauss a écrit un compte-rendu vraiment extrêmement violent en disant que ça, c'était de la dénégation. Et en fait, je pense qu'il a un peu mal compris leurs propos, parce qu'ils n'étaient pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de dégâts énormes. Ils n'étaient pas en train de dire que les sociétés ont souffert des changements, ou qu'il y a eu cette espèce de chute brutale de population. Mais en fin de compte, ils avaient aussi envie de dire que, mais en fin de compte, si on regarde le XVIIe siècle, il y a quelque chose au moins de cette culture précolombienne qui a survécu d'une certaine façon en passant par les voies de métissage, etc. etc. Donc oui, c'est un sujet où on peut parfois provoquer des réactions très violente.
Oui, parce que effectivement, la question, c'est comment dépasser justement une certaine histoire qui a été marquée par cette question de la confrontation entre les nations. On a commencé en évoquant cette question des nations avec vous, Sanchez Subramania, et tout compte fait, en vous lisant, on pourrait presque dire que ce sont des leçons d'optimisme que vous vous donnez, parce que il y a des acteurs qui. Non, mais je veux dire, c'est vrai. Quand on vous lit, on se dit d'abord, il y a des réservoirs d'histoire extraordinaires. Les personnages que vous découvrez dans les archives n'ont rien à rendre à nos grands personnages mythologiques des histoires nationales. Ils sont extraordinaires, ces personnages-là, parce qu'ils partent à l'aventure, ils rencontrent des gens qu'ils ne connaissent pas, ils s'accoquinent avec eux, ils discutent avec eux. Et aussi parce qu'il y a aussi dans leur attitude quelque chose d'extrêmement optimiste dans la capacité à comprendre l'autre, à l'entendre, à discuter avec lui. Et dans un monde qui se refermerait, qui pourrait être le nôtre si ça continue comme c'est parti, d'une certaine façon, il y a là une leçon positive de se dire qu'il y a toujours des gens qui vont au-delà pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. Vous n'avez pas cette impression-là? Vous souriez comme si c'était une vision très, très bizarre que j'avais.
Non, je pense que c'est une lecture possible, mais ce n'est pas forcément la lecture que j'ai envie d'imposer.
Bien sûr.
Hein? Et d'ailleurs, non, je ne pense pas que... je ne partage pas non plus cette autre vision qui, par exemple, qui est devenue une partie de d'OXA des études postcoloniales, où tout allait de pire en pire. C'est-à-dire où, depuis les Lumières, alors le monde commence la dégringolade. Hein. Donc ça, c'est une espèce de vision noire sans fin. Hein. Et je ne partage pas ça non plus.
Vous tracez votre chemin, d'une certaine façon, oui, voilà. Au milieu de ces écueils, parce que ce sont des écueils, d'une certaine façon.
Oui.
Béatrice Bougnol.
Oui, peut-être pour conclure, Sanjay Subramanian, dans un entretien au Monde, vous disiez quelque chose qui est en écho avec le début de cet entretien. Vous disiez que le moment où l'histoire connectée deviendrait conventionnelle, il faudrait inventer autre chose. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'elle est menacée de devenir consensuelle ou pas du tout?
Non.
Les résistances sont encore assez fortes.
Pour l'instant, on est très loin de ça. Je pense qu'il n'y a même pas. J'ai pas fait d'enquête, mais je me demande s'il n'y a même pas un cours sur l'histoire connectée enseignée dans les universités françaises, probablement pas. Alors, c'est très loin de devenir, et encore moins en Inde d'ailleurs, il faut le dire. Mais pour moi, c'est l'intérêt de l'affaire, c'est quand même de bousculer les habitudes. Et dès qu'on a ces espèces d'objets...
De ronron, d'une certaine façon.
Voilà, et donc on peut faire une espèce d'histoire lâche en suivant les habitudes et les chemins trop bien tracés, alors à ce moment-là, il faut inventer autre chose.
Mais remarquez, vous risquez peu de provoquer vos collègues français à créer des nouvelles chaires d'histoire connectée, parce que dans votre futur livre, vous remerciez les historiens qui vous ont accueillis pour les travaux que vous faisiez, et vous vous attaquez carrément à la minorité, je cite, la minorité d'historiens bornés qui ont fait obstacle et continuent à faire obstacle au courant historiographique intéressé par les projets d'histoire connectée, leur préférant les certitudes confortables d'une histoire forgée par ces Européens omniscients et cosmopolites qui ont parcouru le monde de la Renaissance aux Lumières. C'est vrai qu'en faisant ça, vous faites pas, comme on dit en anglais, fishing for compliments. Vous ne cherchez pas les compliments, en l'occurrence, Sanjay Subramanian.
Non, mais c'est vrai que on est parfois assez choqué je n'ai pas l'impression que c'est fait à cause de la méchanceté. C'est parce que les habitudes sont très fortes et c'est pas du tout facile de briser les habitudes. Et alors là, oui, bien sûr, on a toujours envie de raconter Vasco da Gama qui est parti, qui a tout fait et qui a tout inventé, et le Portugal est devenu le centre du monde pendant une certaine époque. Et d'ailleurs, au même temps que j'ai publié mon livre, il y a deux autres livres qui sont sortis qui ont raconté exactement ce que je viens de dire.
Oui, et c'est... Moi, ce qui m'a intéressé dans le livre qui est à paraître, L'éléphant, le canon et le pinceau, c'est que vous faites mention à un moment du fait que vous allez dans le monde entier, que vous mangez aux terrasses avec vos amis, au restaurant, et que là arrive un vendeur de fleurs, de jasmin.
Surtout en Europe occidentale.
En Europe occidentale.
Oui.
Un vendeur de fleurs, un vendeur de bijoux, fantaisie, comme on dit. Et que souvent, dites-vous, ce sont des gens qui viennent du sous-continent indien, ce sont des gens qui viennent d'Afrique ou d'Asie, et vous entamez la conversation avec eux, parce que vous parlez pas mal de langues, Sanjay Subramanian, et ils vous racontent, et ils racontent à vos convives, combien ils sont venus en Europe, parce que la contrée était plus sûre ici que là-bas. J'aimerais vous entendre réagir à cela, réagir à cette actualité qui est la nôtre de ces centaines de milliers, ces millions de migrants qui arrivent à la fois d'Afrique et du Proche-Orient dans notre pays. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant qu'historien justement de cette histoire connectée?
Je pense qu'il faut rendre compte de quelque chose qui est pour moi assez évident. Ces gens ne viennent pas pour le plaisir. Ils viennent parce qu'ils sont souvent obligés de venir. Obligés parfois par les circonstances politiques, parfois par les circonstances économiques. pour plusieurs raisons. Et j'ai quand même pas mal parlé, en particulier avec des gens venant du sous-continent indien, qui ne sont pas les pires situations. Même les gens qui viennent de Pakistan, etc., ils ont parfois quelques difficultés, mais ça ne compare pas avec la situation en Syrie ou dans certains pays de l'Afrique. Mais néanmoins, je pense que c'est très difficile de parler avec ces gens en pensant qu'ils ont pris ces risques parfois énormes pour eux, pour leurs enfants. Ils ont souvent perdu des gens, des proches pendant le passage. Et imaginez que tout cela, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre comme si c'était une bande d'escrocs qui est venue et il faut saisir leurs biens comme on a fait au Danemark. Alors ça, c'est de la honte. C'est de la honte. Et alors là, je veux dire aussi que pour moi, la raison pour laquelle j'ai évoqué ça, c'est aussi parce que vous savez, je vais rire un peu jaune parce que je me rappelle quand je suis passé voir les gens pour avoir ma carte de résident. Alors, les gentilles dames à Évry qui m'ont donné ça, elles avaient l'habitude de traiter justement avec les board people, etc. Et je pense qu'elles étaient un peu choquées parce que, à vrai dire, moi je suis un peu quoi, un SDF de luxe, non ? Tandis que ces gens-là, c'est autre chose.
Voilà. Merci Sanjay Subramaniam de cet entretien que vous nous avez accordé pour conclure cette journée, l'année vue par l'histoire. Nous avons quelques minutes de questions avec vous.
Je suis subjuguée, et nous sommes tous, je pense, ici. Vous avez bien démontré. Vous étiez à cheval, et ça c'est une question que je vais vous poser, ça va être la première. Est-ce que vous vous sentez d'abord économiste et après historien, et d'abord historien puis après économiste? En clair, on a vu que vous étiez à cheval entre le cartésien et le pascalien, c'est-à-dire que l'impression, l'intuition avait une grande force dans votre analyse. Et autre question, on a parlé tout à l'heure, et très bien consensuelle, convivence. Croyez-vous encore qu'aujourd'hui on a une chance de retrouver de la convivence, convivencia espagnole, je dirais 715-1487, comme on avait eu entre les Arabes, les chrétiens et les juifs pendant cette période, qui était une ère de progrès?
Sanjay Subramaniam.
Bon, une petite chose. C'est vrai que quand j'étais à l'école des hautes études, quand j'enseignais là pendant 10 ans, on me disait toujours que j'étais pas suffisamment cartésien. Hein. Et bon, je l'assume. Mais pour revenir à votre autre question de la convivencia, alors on peut débattre les détails, ça n'a pas d'importance. Mais finalement, pour moi, quand je regarde cette époque-là, je pense que, en fin de compte, la raison pour laquelle ça marchait, c'est parce que, à l'époque, on a eu la capacité d'inventer un certain nombre d'institutions politiques et d'institutions sociales qui permettaient ce genre de choses. Et c'était pas parce que, à l'époque, l'islam était plus tolérant, moins tolérant, les chrétiens étaient plus tolérants, moins tolérants, etc. Je ne sais même pas comment les gens qui sont capables de dire ce genre de choses, je ne sais finalement pas comment mesurer ce genre de choses. Tandis que ce que je trouve aujourd'hui assez difficile à avaler, c'est le manque de volonté d'inventer les institutions qu'il faut, les institutions politiques et sociales qu'il faut pour permettre ce genre de choses. Et si on dit on renonce à cette invention, alors là, bien sûr, on est perdu d'avance.
Merci. Une question de monsieur.
Oui, bonjour. Je voudrais vous poser une question, celle du paysan du Danube. Qu'est-ce que c'est que l'histoire connectée?
C'est ce qu'on a essayé d'expliquer. Peut-être l'a-t-on mal expliqué. Merci, monsieur.
Attendez, je voudrais juste compléter ma question en disant que l'Inde, ou une grande partie de l'Inde, a connu des souverains moghols pendant quelques siècles. C'était le télescopage de deux civilisations très différentes. Et est-ce que ça relève de l'histoire connectée ou est-ce que ça relève de l'histoire traditionnelle?
Non, ça c'est pour prendre la question dans le mauvais ordre. Non, ça c'est l'histoire traditionnelle dans la mesure que c'est, étudier l'histoire moghole, c'est un objet consacré qui existe, et ça se fait depuis le temps des Moghols et ça se fait depuis le 19e, 20e siècle aussi en Occident. Alors c'est quoi donc l'histoire connectée? L'histoire connectée, c'est pour moi trouver des fils, des liens entre deux objets conventionnellement séparés, mais sans justification véritable. Donc on a séparé, on a scié, on a séparé deux objets et on a fait deux objets différents dans l'étude pour une raison purement conventionnelle ou de paresse intellectuelle, parce qu'on n'avait pas envie de croiser deux archives ou des choses comme ça. Alors, donc pour moi, c'est en quelque sorte, c'est de trouver les moyens de rétablir ce qui était une réalité autre dans le passé que nos conventions ont artificiellement brisé. Voilà, c'est ça pour moi l'histoire connectée plutôt que l'histoire conventionnelle.
Et pourtant, les Moghols, ils sont très présents dans le livre que vous allez publier le mois prochain.
Voilà, mais vous savez
mais que... Mais pas dans la façon traditionnelle, en l'occurrence, Saint-Gilles-Romagnien.
Voilà, c'est-à-dire, si on prend un livre sur les Pays-Bas à l'âge d'or, hein, il y a beaucoup de livres sur ça, mais est-ce que vous trouvez les Moghols là-dedans? Très rarement. J'ai un ami qui est un très grand historien des Pays-Bas, qui est Jonathan Israel, qui a beaucoup écrit sur les Pays-Bas. Et une fois, je lui ai dit, mais comment est-ce que ça se fait que vous étudiez Spinoza sans jamais dire que Spinoza s'intéressait beaucoup aux religions en dehors de l'Europe? Par exemple, il y a un moment assez frappant dans les lettres de Spinoza dans lequel il dit à un de ses amis qui s'est converti du judaïsme au catholicisme, il dit, mais comment est-ce que vous avez fait ça? Vous n'avez même pas étudié les religions en Inde et en Chine pour savoir s'il n'y avait pas de meilleures religions là-bas.
Ça veut dire que lui, il avait fait.
Ben, au moins, il avait une certaine connaissance. Et ce n'est pas du tout... Et ça a du sens, parce que vous voyez que Spinoza habitait les Pays-Bas, il y avait la compagnie néerlandaise, il y avait énormément d'informations sur l'Asie qui affluait tous les ans. Et d'ailleurs, ce que j'ai démontré, par exemple, dans ce livre, c'est que, par exemple, Rembrandt avait copié des miniatures moghols. Il a fait au moins 20 ou 25 copies de miniatures moghols qu'il a par la suite utilisées pour des pas directement dans les tableaux, mais conceptuellement d'une façon très compliquée. Donc voilà, c'est pour moi un objet qui aurait dû exister, mais parce que la Convention veut qu'on étudie les Pays-Bas ici et les Moghols là-bas, bon, donc on ne fait pas la connexion.
Madame.
Nassira Ghanif, je suis sociologue et anthropologue. Je voulais vous poser la question de savoir si, à votre avis, ce que vous mettez en évidence du point de vue de la connexion et donc de cette capacité à surmonter et à dépasser toute une série de limitations géographiques, épistémologiques et politiques, est-ce que c'est aussi quelque chose que l'on retrouve, d'une certaine manière, dans les sciences qui s'intéressent aux sociétés contemporaines? Autrement dit, l'histoire connectée, je voudrais avoir votre éclairage sur la façon dont ça résonne par rapport aux questions contemporaines.
Oui, je pense que les méthodes sont bien sûr différentes si on vient vers la sociologie et l'anthropologie. Alors déjà là, on est dans deux cas un peu séparés, mais pas tout à fait. Je pense que cette idée, normalement, ça trouve plus d'écho chez les anthropologues. Il y a maintenant quelques sociologues, mais sous discipline de la sociologie historique, qui ont essayé de faire des liens. Je pense notamment à quelqu'un en Angleterre qui s'appelle Gurminder Bhambra, qui a écrit un certain nombre de choses. Donc je pense qu'il y a, au moins potentiellement, il y a des conversations fécondes. Ça ne s'est pas fait, à mon avis, suffisamment, mais peut-être ça viendra.
Merci Saint-Gilles-Romagnien, merci Béatrice Bougnol d'avoir co-animé ce débat et d'avoir terminé cette journée consacrée à l'année vue par l'histoire.